Après qu'Édipe eut perçu les destins prédits et sa naissance infâme, qu'il se fut condamné lui-même comme coupable convaincu du crime, gagnant plein de hargne le palais royal, il pénètre d'un pas précipité sous son toit détesté. Tel le lion de Libye, qui à travers les campagnes déchaîne son délire, en secouant d'un air menaçant sa crinière fauve, le visage tordu par la fureur et les yeux farouches. Il pousse de plaintifs et profonds rugissements, et sur ses membres prend son essor une sueur glacée. Il écume, profère des menaces, et une vaste douleur enfouie au plus profond déborde. En lui-même, avec cruauté, il ourdit je ne sais quelle action monstrueuse, digne de ses destins. Pourquoi retarder mon châtiment, dit-il. Cette poitrine criminelle, qu'on l'assaille avec un glaive ou une torche brûlante, ou qu'on l'écrase sous les pierres. Quel tigre ou quel oiseau cruel se précipitera sur mes entrailles. Toi-même, repère de crime, Cithéron maudit. Contre moi fais surgir de tes forêts des fauves, ou lance des chiens pleins de rage. Maintenant, donne à moi aussi une agavée. Mon cœur, pourquoi crains-tu la mort? Seule la mort arrache à la fortune un innocent. Il parle. Puis il pose sa main impie sur la garde de son épée et la tire. Est-ce ainsi? Pour de si grands crimes, tu acquittes une peine si courte, et par un coup unique, tu compenseras tous tes actes? Tu meurs? C'est assez pour ton père. Que subiras-tu ensuite pour ta mère, pour des enfants venus au monde, pour leur malheur, et pour celle-là même qui expie ton crime par une vaste calamité, ta déplorable patrie? Il ne faut pas affranchir la nature qui a bouleversé ses lois immuables pour le seul Édipe. Elle a imaginé des enfantements inouïs, qu'elle invente aussi pour moi, des supplices inouïs. Soit permis de vivre et de mourir à maintes reprises, de renaître sans cesse pour subir autant de fois de nouveaux supplices. Use de ton talent, malheureux. Ce qui ne peut se répéter, qu'on l'étende sur une longue durée, choisis une mort qui se prolonge. Cherche un chemin où tu puisses errer sans être mêlé aux morts, mais pourtant exclu des vivants. Meurs, mais reste en deçà de ton père. Tu hésites, mon cœur? Voici que soudain se répand une pluie de larmes qui charge mon visage et inonde mes joues. Et suffit-il de pleurer? Mes yeux se borneront-ils à verser cette onde légère? Chassés de leur demeure qu'ils suivent mes larmes, les yeux d'un semblable mari crèvent-les tout de suite. Il dit et déploie une rage furieuse. Ses prunelles menaçantes brûlent d'un feu sauvage et ses yeux ont peine à se maintenir dans leur demeure. Ses traits ont exprimé violence, témérité, rage, férocité quand il s'apprêtait seulement à les arracher. Il a gémi. Et avec un grondement sinistre, il a tourné ses mains vers son visage. Mais ses yeux farouches se sont dressés à leur rencontre, et tendus vers la main qui les assaillait, ils l'accompagnent d'eux-mêmes, courent au-devant du cou qu'on leur porte. Il explore avidement de ses mains recourbées les orbites, et en les déracinant totalement arrache en même temps leur globe. Ses mains restent accrochées dans ces places vides, et fixées au fond, elles déchirent avec leurs ongles les recoins de ces cavités et leurs courbures vidées. Il déchaîne en vain sa cruauté et exerce sa fureur sans se rassasier. Le jour lui suscite-t-il tant de périls? Il lève la tête, et parcourant de ses orbites creuses les espaces du ciel, il fait l'épreuve de sa nuit. Il rompt tout ce qui pend de ses yeux mal arrachés et interpelle en vainqueur tous les dieux. Épargnez donc ma patrie, je vous en supplie. Désormais j'ai fait justice, j'ai enduré le châtiment dû. J'ai enfin découvert une nuit digne de mes noces. Une pluie dense inonde son visage, et sa tête mutilée vomit par ses veines arrachées du sang à profusion.